Acte 2. L'émission d'entrevue de l'association du passage à l'acte.
En permaculture, une des premières phases, si ce n'est la première, est celle de l'observation. Et on dirait bien qu'en ce qui concerne une observation permaculturelle de notre société, ce soit Steve Reed qui s'y colle dans un rapport facétieusement intitulé « Permutation », disponible via le site de l'auteur. Steve Reed, permaculteur, designer et enseignant en permaculture, fondateur de l'Université populaire de permaculture, breton, est aujourd'hui notre invité. Et comme nous sommes au Mont-Gardé pour enregistrer, et donc jamais bien loin du train, vous nous pardonnerez les bruits de fond qui peuvent être aussi celui des avions ou des stagiaires qui font des trous dans la terre. Que vous soyez en train de feuilleter un livre d'images ou une pâte à tarte, vous êtes de toute beauté, alors ouvrez bien vos oreilles, c'est acte 2, c'est culturel et c'est parti. Floem, bonjour. Steve Reed, bonjour.
Bonjour.
Tu as écrit un rapport d'une cinquantaine de pages qui s'appelle Permutation. Je l'ai décrit comme étant un document d'observation. Est-ce que c'est effectivement un document d'observation ?
Comme on dit en permaculture, chaque élément a plusieurs fonctions. Du coup, c'est une façon d'observer la France, les systèmes qui, système agricole, système de gestion, bâtiment. Et c'est aussi une façon de montrer que la permaculture n'est pas juste du jardinage sur but ou juste le jardin. C'est aussi beaucoup plus vaste. On touche à tous les domaines, tous les aspects de la vie.
Ça te pose un souci que la permaculture soit essentiellement transmise par le jardinage sur but?
Bah, il faut qu'on mange. Du coup, non, c'est pas forcément un souci. C'est juste, faut qu'on prenne le temps de temps en temps d'expliquer aux gens que c'est beaucoup plus vaste que ça. Je m'occupe de tout ce qui est agricole, production, potager, AMAP, mais aussi le bâtiment, système économique, les villes, villages.
La permaculture, c'est quelque chose qui peut sortir du jardin pour être appliqué à pas mal de domaines, en tout cas.
Ouais, ça sort du jardin depuis 30 ans.
Pourtant, ça continue d'être transmis de cette manière-là.
Bah, c'est facile, les gens ils produisent des livres qui expliquent la permaculture au niveau du jardin. Mais très souvent, ces livres sont écrits par les gens qui ne sont pas experts en permaculture. Ils ne sont pas vraiment des concepteurs, ils ne sont pas formés ou expérimentés en qu'est-ce que la permaculture vraiment. Et donc ça fait pour moi 25 ans que je travaille. J'ai commencé en ville, à Londres. Et je sais que c'est un sujet beaucoup plus vaste. C'est-à-dire que si je travaille avec un agriculteur, l'agriculteur il vit dans quelque chose. Leur business est lié avec les marchés mondiaux, leur tracteur, l'école. Du coup, on touche à tout.
Donc, ce que je peux comprendre, c'est que ce que tu vises avec ce rapport, c'est d'avoir un regard permaculturel sur un grand nombre de domaines de la société. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs dans ce rapport ?
Oui. Ergo, le titre permutation, on n'est pas du tout dans une démarche de révolution. Ça, c'est relativement contre-indiqué.
Mais on est... Pourquoi c'est relativement contre-indiqué?
Parce que les révolutions, historiquement, ils n'ont jamais marché. On remplace un système qui n'est pas très bien avec un autre système qui n'est pas très bien. Donc on traverse un période de chaos et une difficulté sociétale. Alors nous, on est vraiment beaucoup plus dans une transition. Donc permaculture, transition, ça fait un peu permutation. Mais aussi, une permutation, c'est le passage de quelque chose à quelque chose d'autre, mais sans passer par une phase de révolution. C'est en douceur, si vous voulez.
Dans ce rapport, il y a une partie observation qui est très fouillée. Tu as des données qui sont très précises, des sources qui sont citées. En fait, on sent à la lecture la recherche d'une certaine prise de distance et l'envie de se situer plus dans l'esprit critique, la volonté de ne pas être classé dans l'humeur critique, en tout cas. Il y a quand même une révolte derrière ce truc-là. Est-ce quelque chose d'émotionnel derrière permutation ou pas?
Ouais, à la base, oui. Parce que je trouve que les conditions dans lesquelles beaucoup de gens vivent sont inacceptables. Et que ce qu'on a fait avec ce planète, c'est inacceptable aussi. Et que nous, en tant qu'une espèce qui est supposée être relativement intelligente, on peut faire beaucoup mieux. Et c'est vraiment le temps de passer à l'acte. Du coup, ouais, il y a une partie de moi qui est révoltée. Et je pense que pour beaucoup de permaculteurs, on a cet aspect-là. Il y a beaucoup de nous qui viennent des mouvements politiques, engagés, activistes. Et on a trouvé avec la permaculture une façon de ne pas réagir, mais d'agir. Alors, permutation, c'est un peu ça. Simplement, je pioche dans une manière plutôt scientifique, c'est-à-dire que je me détache de mes émotions pour regarder le système qu'on appelle la France, le système de gouvernement, gouvernance, système économique, système de tout ce qui est bâtiment, agricole, l'eau. Et je pioche très, très simplement dans les statistiques nationales de l'INSEE, pour la plupart. C'est des statistiques qui sont disponibles à tout le monde peut aller les voir, qui révèlent que l'état de la France n'est pas terrible. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas du tout. Donc je voulais un peu exposer ça aux gens, que voilà, on est bien peinard, on va à KFC samedi, on a tous un iPhone et tout, mais derrière tout ça, il y a une dégradation du sol, l'eau est de plus en plus polluée, les nappes phréatiques sont en train d'être détruites. Il y a beaucoup de gens sans logement, il y a beaucoup, beaucoup de pauvreté. Et en revanche, une minorité de personnes qui deviennent de plus en plus riches. Et le système de gouvernance, ça coûte très, très cher. Et ce qu'on voit avec les autres aspects, c'est les conséquences de les politiques qui ont été enactées pendant quelques décennies maintenant, qui nous a amenés à une situation pareille. Qu'il y a pauvreté, les gens sans logement, les gens qui ont faim, les enfants qui sont vraiment dans des situations pénibles, et les sols agricoles qui sont détruits. Et là, voilà. Donc, il faut qu'on pose des questions par rapport au système de gouvernance et nos systèmes agricoles, industriels et économiques et sociaux.
À t'entendre, on dirait que la situation est très noire, en tout cas assez sombre. À la lecture de ce rapport, j'ai pas. Était dans une humeur très sombre parce qu'il y a aussi beaucoup de propositions qui sortent de la permaculture, en tout cas qui ressemblent beaucoup à ce qui se passe en cours de permaculture. Est-ce que c'était une volonté d'avoir cet équilibre-là entre l'aspect critique, qui n'est pas une humeur critique, mais bien de l'esprit critique étayé, mais du coup le résultat est relativement sombre, et en même temps une proposition qui soit assez optimiste et qui ouvre des portes? Est-ce que c'était une envie qui est les deux dans la même chose? Est-ce que c'était...
C'est pas juste une envie, c'est parce que aussi on peut voir que à part les déchets nucléaires, on a les solutions pour quasiment toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui. Et on peut rectifier les situations, on peut faire des choses autrement. Donc c'est un peu la proposition dans cette brochure. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup de documentaires qu'on peut aller voir qui présentent vraiment les mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que je peux aller voir un documentaire qui montre les crises, ceci, cela, mais il ne propose pas de solutions. Il ne pioche pas dans les solutions des gens qui sont en train d'essayer de changer les choses. Alors, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont là, le mouvement de la transition, les incroyables comestibles. Il y a des dizaines de projets qui sont à droite, à gauche, qui veulent refaire les villes, ils veulent produire à petite échelle, tout un map, terre des liens. C'est vraiment... Il y a toute une partie très positive dans tout ça. C'est un peu notre monde. C'est pour ça que j'ai aussi un sous-titre de brochure, c'est la même planète, notre monde. C'est-à-dire, on peut rester avec cette planète, mais on peut juste simplement changer nos systèmes de gestion et nos systèmes économiques et agricoles.
Dans les domaines que tu considères prioritaires, il y a l'agriculture, l'eau douce, les logements, la consommation et la production d'énergie, le système économique et le système politique. J'ai pas vu les questions d'éducation. Est-ce que ça te paraît moins prioritaire ?
Pas du tout, c'est prioritaire, mais j'ai pas vraiment trouvé la place pour mettre dans ce brochure-là, ça va être dans un autre sans doute. On peut vraiment poser des questions par rapport à ça, c'est juste, pas juste le système d'éducation, mais aussi le bâtiment. Quand je passe, je regarde les écoles, les lycées et les collèges, comment ils sont construits, les chaises, les meubles, les couloirs. On peut poser des questions. Est-ce qu'on a construit des environnements qui sont propices à leur fonctionnement? Et pour les experts comme moi, très souvent, la réponse est non. Et après, on peut aussi poser des questions par rapport au système pédagogique.
Est-ce que tu aurais des exemples de disadaptation ou plutôt de non-adaptation de une école?
Bah, par exemple, on peut aller quasiment dans n'importe quel lycée, collège ou école. Et très souvent, les écoles, surtout dans la campagne, ils sont très sombres à l'intérieur. Ils n'étaient pas construits pour ce fonctionnement. Les meubles encouragent les enfants à courber leur dos. Ils sont tous une taille standard, les enfants ne le sont pas. Éclairage électrique, dans les lycées, dans les collèges, les lycées que j'ai visités, le bruit dans les couloirs, c'est très offensif et c'est dérangeant. Les expériences qui ont été faites pendant plusieurs années, où ils ont mis des tapis dans les couloirs, ils ont ajouté des plantes, ils ont changé. Ça a beaucoup changé l'environnement sonore. Et puis par la suite, ça a changé le comportement des enfants. Et on peut créer de rien avec des architectes qui sont formés à faire ça et peut construire les bâtiments qui sont adaptés à ce fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lumière. Ils ont tendance à être plus arrondis en forme et il y a beaucoup de travail sur l'environnement sonore.
Oui, permutation, ça ressemble beaucoup à ce que tu viens de faire sur l'école, une phase d'observation, une phase de proposition à partir de choses qui existent, qui ne sont pas des « on pourrait faire ça », mais des « ce genre de choses existent déjà » et il y a déjà les expérimentations qui prouvent qu'on a déjà tout et qu'il suffirait juste d'y aller. Tu vises qui dans ce rapport? Quel type de lecteur, une fois qu'on a fini de le lire, on le donne à qui ce rapport?
Oh, j'en sais rien, franchement. Pour moi, j'ai essayé de l'écrire dans une manière qui est relativement simple à lire. Oui, je pioche dans les chiffres, mais j'essaie de les présenter dans une manière qui est digeste. C'est vraiment pas destiné à un public spécifique. C'est juste, voilà, ça existe. Si vous avez envie de le lire, allez-y, c'est disponible. C'est prix libre. Donc, c'est juste pour un peu brasser l'eau un petit peu. Pas que l'eau de la société en général, mais aussi l'eau autour de la permaculture, que la permaculture n'est pas que le jardinage. Et il faut qu'on vise beaucoup plus des concepteurs de systèmes permacoles. Il faut qu'on travaille avec les systèmes nationaux et pas que juste faire un petit jardin derrière la maison.
C'est comme ça que tu penses que ce rapport aura un impact ou changera quelque chose, qu'il y ait une prise de conscience de la part des permaculteurs et des concepteurs de systèmes permacoles qui doivent tirer un peu plus large et qui doivent avoir peut-être un petit peu plus d'audace?
Je pense que surtout les gens qui ont suivi des stages avec moi et par la suite les gens qui ont suivi des stages avec moi, qui ont commencé à former les gens, je pense que toutes ces personnes-là, ils sont bien éduqués par rapport à l'ampleur de qu'est-ce que c'est la permaculture. Mais il y a beaucoup de gens qui sont simplement à regarder quelque chose sur YouTube. Ils ont s'auto-formé avec quelques livres sur le jardinage. Et puis par la suite, ils ont, voilà, on va faire ceci, on va faire cela. Voilà. Après, ils ont sorti un livre sur la permaculture, marqué par exemple des conseils d'experts. J'ai un livre comme ça, c'était quasiment ça, c'était des conseils d'experts. C'était un livre, c'était présenté la permaculture comme forme de jardinage. Et l'expert en question n'a jamais suivi une formation en permaculture et pas expérimenté en permaculture. Et encore, c'est une journaliste.
C'est quoi les failles de ce rapport? Qu'est-ce que tu aurais voulu améliorer maintenant? Est-ce qu'il y aurait des choses à refaire, à compléter? Ou peut-être les choses que quelqu'un d'autre pourrait faire pour aller plus loin?
Ouais, bon, une faille, entre guillemets, c'est que c'est un peu simpliste. Le parcours que j'ai fait dans les chiffres, tout ça, c'est pas la partie simpliste, mais la partie simpliste, je présente quelques solutions, mais ces solutions sont un peu simplistes pour un permaculteur parce qu'ils sont pas connectés ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. Mais je voulais sortir quelque chose qui était pas trop lourd, qui était pas un pavé, donc facile à lire, on peut lire ça dans une heure, et puis on peut se trouver inspiré peut-être pour aller plus loin et découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est la permaculture, qui est un outil qui est vraiment important et qui propice une permutation. Après, ça fait partie d'un plus grand projet, parce que ça, c'est juste simplement la lecture. Il n'y a quasiment pas d'image là-dedans. Il y aura aussi des films. On est en train de filmer un documentaire sur quelques personnages qui travaillent, surtout à Paris, qui ont des moutons en ville, qui ont en effet des jardins sur les toits, qui sont bien actifs dans ce sens, donc ça fait partie de ça. Une vidéo, et après il y aura un livre qui explique vraiment qu'est-ce que c'est la permaculture, et j'ai approfondi aussi les techniques et les approches qu'on utilise.
Donc c'est une affaire à suivre sur steveread.fr.
Ouais, on me dit pourquoi t'as ton nom et ton site steveread.fr, et je dis mais ce qu'on voit sur la bouteille c'est ce qu'on trouve à l'intérieur, en gros c'est moi ce que je suis en train de faire. Il y a d'autres sites, j'ai plusieurs exemples dans la tête où ils ont un nom comme je sais pas permaculture internationale, et en gros on pense que c'est vraiment un truc de vaste ampleur, hein, mais en fin de compte c'est un mec qui est derrière. Alors, j'ai dit, moi, je n'ai pas envie de faire ça. Donc, je fais ça à steveread.fr. Et voilà, c'est comme ça. C'est juste moi. Et j'ai mon petit projet, mes petits projets.
Et donc, on peut suivre ton actualité dessus.
Voilà, oui. Je ne suis pas en train de vanter que je suis Permaculture France, choses comme ça. C'est juste, c'est moi.
Tu parles dans le rapport, notamment dans les conclusions. Il est temps, je vais ouvrir jusqu'à la dernière page. Je constate que ce mouvement de transition reste fragmenté. Je crois profondément qu'il faut que l'on se réunisse pour travailler ensemble vers ces objectifs qui nous tiennent tant à cœur. Je pense qu'il est temps de créer une internationale de la permaculture, un truc où les gens commencent à discuter et pas être seulement dans leur coin, ou bien...
Non, c'est pas forcément la permaculture là dont je parle. La permaculture, c'est pas vraiment un mouvement, c'est un art et une science de comment concevoir les systèmes durables. Mais il y a beaucoup de mouvements autour, quand on voit autour de nous. Il y a les colibris, agroécologie, agroforesterie, on peut citer des dizaines. Mais pour l'instant, au niveau stratégie, ce que je constate en tant que concepteur de système, on est tous en train de travailler dans nos petits coins. Et puis ça va être beaucoup plus efficace si on réunit nos forces pour vraiment essayer de faire avancer ce schmilblick, parce que c'est vraiment le temps que ça change. On peut vivre beaucoup mieux en détruisant l'eau, l'air, le sol. Et on peut le faire, c'est pas compliqué. On a les solutions, on peut faire autrement. Et c'est vraiment le temps qu'on en fasse.
Merci beaucoup en ce qui concerne permutation. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet, qui est la certification, le PDC ou le CCP, enfin ce genre de choses. Parce que tu parles des gens que tu as formés, c'est écrit dans permutation, tu as fait plus d'une centaine de cours de 72 heures de permaculture. Parce que c'est ça un CCP, si j'ai bien compris, il me semble. Ça se passe comment un CCP ?
Bon, les CCP, en gros, c'est un cours certifié en permaculture. En général, il dure 10 jours, 12 jours, 14 jours, pendant plusieurs week-ends. Il y a des styles différents. C'est vraiment de proposer aux gens qu'ils viennent s'immerger profondément dans qu'est-ce que c'est la permaculture pendant une période de temps. Il y a un programme qui est en gros un programme qui a été mis en place en 1987. On suit ce programme, mais aussi en même temps, les choses ont évolué depuis. Donc, du coup, il y a beaucoup d'autres choses dont on en parle. Mais pendant ce stage, on va exposer aux gens qu'est-ce que c'est la vraie permaculture. Et aussi, on va piocher, on va explorer les techniques, les systèmes, les stratégies, explorer qu'est-ce que c'est la science de l'écologie, la science de l'économie, etc. Et à la suite, les gens, ils ont un certificat qu'ils ont suivi un stage de 72 heures à un minimum pour continuer après pour une forme d'apprentissage ou pour le diplôme en permaculture appliquée.
C'est assez complémentaire avec permutation, ton rapport sur la transition. Franck Lepage dit quelque chose, enfin en tout cas, je l'ai entendu dire quelque chose dans une interview dans Arrêt sur Image, qui disait que pour changer, savoir que le changement est nécessaire ne suffit pas. Il faut l'expérimenter dans un cadre sécurisé. J'ai l'impression qu'un CCP, ça permet de faire ça, d'expérimenter des solutions et un mode de vie différent dans un cadre sécurisé parce qu'il est limité temporellement, parce qu'il est encadré. J'ai l'impression que ça éclaire ça.
Ouais, je pense que les CCP avec moi, c'est vraiment d'essayer de trouver des cadres. Donc ici, on est sur 35 hectares, mais il n'y a pas de bâtiment, l'eau est dans les cuves. Et du solaire, donc c'est une condition qui peut être considérée par beaucoup de gens d'être assez rude, mais en même temps ça aide les gens à sortir de leur leur vie normale et d'expérimenter quelque chose d'autre et surtout de rencontrer d'autres personnes qui sont un peu le même esprit et puis former des liens, former des affinités comme ça, pour voir on n'est pas toute seule.
Ouais, parce que c'est important la sensation qu'on peut avoir des fois d'être un peu d'être soi-même une île au milieu de plein de gens. C'est intéressant de se rendre compte que des connexions et qu'en fait tisser un réseau, effectivement. Ça s'adresse exclusivement aux gens qui sont un peu déjà sensibilisés ou...
De tout, pas de tout, non. Moi, je joue pendant les stages, je joue, je sais pas qui, je joue des mercenaires, par exemple. Je joue des comptables, les gens qui ont expert en informatique, je joue des agronomes, j'ai des agriculteurs. Je joue quasiment, je pense, tous les métiers des gens qui simplement, ils arrivent dans un moment dans leur vie, ils se sont dit, mais j'en ai marre de mon métier, j'en ai marre de ce que je fais, ou comment je le fais. J'ai envie de voir autre chose. Et ils entendent parler de la permaculture, et puis pour les raisons XY personnelles, et ils viennent suivre un stage.
Et en même temps, alors moi j'ai pas fait beaucoup de CCP, donc je vais peut-être faire une généralité à partir de données qui sont erronées. J'ai l'impression qu'il y a quand même une trame commune. Je vois beaucoup de trentenaires blancs, de milieux pas forcément modestes. Est-ce que c'est un constat que tu fais aussi malgré tout? Et puis, si c'est le cas, comment ouvrir, comment aller
c'est un peu le cas, mais en même temps, ça, c'est la majorité de personnes qui sont en France. Du coup, voilà, on a les majorités. Et puis, pendant les stages, il y a la même minorité qui vient, qui ne sont pas dans ce statut-là. Du coup, en gros, ça ressemble plus ou moins à la société. Et mon approche depuis 25 ans, depuis 1992, a été toujours de proposer des stages vraiment pas chers. Du coup, là, ici, les gens, ils ont payé, je sais pas, 420 euros pour 10 jours, 3 repas par jour, bio, super, en plus le cuistre est super bien. Hébergement et les cours. Donc, ouais, je défie quelqu'un à trouver un stage pareil, quoi. Tout ce qui est des autres choses, ils sont beaucoup plus chers que ça.
Oui, effectivement, c'est une caractéristique importante de ça, de l'accessibilité à l'argent, parce que ça se pose quand même souvent dans la...
en même temps, en plus, c'est-à-dire qu'il y a des gens, l'année dernière, j'avais 2 places de stage suspendues, donc c'est des gens qui ont payé 2 places pour quelqu'un d'autre. Et très souvent, les gens me contactent, ils disent, écoute, j'ai envie de suivre le stage quand même. Donc, on essaie de trouver un moyen de les accepter. Donc, assez souvent, il y a quelqu'un qui paie que dalle pour le stage. Mais en même temps, je me trouve critiqué pour cette approche. Les gens disent, ouais, c'est pas professionnel, tu fais ça au black et tout ça. Mais c'est pas tout vrai. Je paie mes impôts comme tout le monde, je suis auto-entrepreneur, je déclare. Et non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment l'approche activiste pour moi, engagée. C'est que j'ai pas envie de créer une espèce d'éco-bourgeoisie. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont entendu parler de ça, c'est chic. Ils vont rentrer chez eux et parler de leurs amis autour d'un café dans un bistrot. J'ai envie d'encourager les gens d'y aller, quoi.
Pendant ces stages-là, il y a des cours, il y a de la pratique, il y a des chantiers. On fabrique un permaculteur en 10 jours ?
Non, mais ça commence vraiment à donner des bases. Ça donne vraiment des bases. De toute façon, cette histoire des chantiers pour un lieu, on est ici au Mont-Gardé, et donc c'est 35 hectares, c'est un lieu, il y a des choses qui sont déjà ici. Il y a des projets qui sont en place, donc les gens, chaque année, moi, plusieurs fonctions encore, que les gens viennent, ils profitent du lieu, il y a le cours, et puis en contrepartie pour le lieu, on fait des chantiers. Du coup, on est en train de peaufiner la mare, en train de monter une bergerie, et quand on part, le site sera agradé après notre visite, qui est vraiment important pour nous. Et en même temps, les stagiaires, ils mettent leurs mains dans la pâte, ils sont en train d'expérimenter chez des choses. Les gens qui travaillent pour finir la mare, ils n'ont jamais travaillé avec une mare. Les gens qui ont travaillé avec les moutons, ils n'ont jamais travaillé avec des moutons. Donc, c'est des expériences nouvelles et ils vont apprendre des choses avec ça.
En fait, c'est une base pour qu'ils aillent expérimenter plus loin, soit sur des stages spécialisés, soit éventuellement par des livres et d'avoir
ouais, il y a des livres, il y a des vidéos et tout. Après, et simplement y aller, quoi. Il y a un mec qui est venu visiter, qui a suivi le stage l'année dernière, il est rentré chez lui. Il n'est pas, comment dirais-je, son, que ça sonne bizarre, mais il n'est pas intellectuel. C'est un mec qui met ses mains dans la pâte tout de suite, il est rentré chez lui, et puis il a installé beaucoup de choses dont on parle pendant le stage, et il a constaté que ça marche super bien. Et je dis, bah, c'est génial, quoi. Il est juste et simplement, il est parti, il le fait. Il a compris de plus en plus pourquoi on fait de telles choses, comment construire un site permacole. Et il a passé une année, maintenant il a plus de production, il est plus confortable chez lui, il dépense moins.
Ouais, ben, tous les avantages de la permaculture.
Bah.
Comment on s'inscrit à un CCP si d'un seul coup on est intéressé là en t'écoutant?
Bah, il y a un site internet pour l'université populaire de permaculture. Comment ça c'est j'ai oublié comment ça c'est,
Je crois que c'est permaculturefrance.org.
permaculturefrance.org. Là, on va trouver qu'il y a plusieurs formateurs en France maintenant qui proposent des stages. Sinon, le site que tu as nommé pour les stages avec moi. Donc,
Steveread.fr.
ouais.
L'Université populaire de permaculture, c'est quoi?
Nous, on a un parcours diplômant. C'est-à-dire que quelqu'un qui a suivi un CCP peut continuer avec un tuteur, un coach, pour avoir ce qu'on appelle le diplôme en permaculture appliquée. Quand ces personnes ont ce diplôme-là, ils ont gagné le droit d'animer les stages de 72 heures, d'accréditer quelqu'un d'autre et de travailler en tant que professionnel de la permaculture. Du coup, si vous voyez que quelqu'un est en train d'organiser un stage, ils n'ont pas ce diplôme, ça veut dire qu'ils ne sont pas qualifiés et ils n'ont sans doute peut-être pas du tout expérimenté. Parce que nous, on est concepteur d'abord et formateur après. Donc, c'est-à-dire qu'on met nos mains dans la pâte. Et les formations qu'on donne, les connaissances qu'on partage, sont basées sur nos propres expériences. Dans d'autres pays, hein, comme en Angleterre, en Allemagne, en Italie, ils ont créé ce qu'ils appellent les académies de la permaculture. Le mot académie, ça sonne parfois un peu bizarrement pour les francophones. Et de toute façon, en France, il y a toute la tradition des universités populaires et des savoirs partagés, qui correspondent énormément à notre philosophie, à approche en permaculture. Et du coup, moi, j'ai monté l'asso en 1901, qui est, en gros, c'est l'université populaire, qui fait partie du réseau des universités populaires. On respecte les traditions et les éthiques, en gros, des universités populaires. C'est une autre raison pourquoi les stages ne sont pas chers. Et donc, il y a un CA et on a beaucoup de projets. On a des projets, c'est un réseau en tout cas, c'est un réseau des gens qui sont diplômés.
J'ai entendu parler du réseau Brin de Paille, est-ce que ça a à voir avec l'université populaire?
Ouais, j'arrive. C'est un réseau de diplômés, ça va devenir de plus en plus un réseau des centres de formation. Et juste avant que j'ai créé UPP, il y a Pascal Despiennes qui a créé Brin de Paille. Brin de Paille, c'est en gros une autre forme de réseau. C'est un réseau grand public avec un forum, un partage de ressources, mais surtout ils ont un système de référents locaux où si j'ai envie de contacter quelqu'un dans la Drôme, je contacte Brin de Paille qui va me donner le contact, le référent local dans la Drôme. Ces personnes-là et en contact avec les projets qui sont dans la Drôme, donc une espèce de, comment dirais-je, un respect de qualité, ça veut dire qu'il peut aller visiter le lieu, il peut voir si c'est vraiment un truc permaculture ou pas. Ça existe toujours. Ah non, c'est fini, donc voilà.
Un genre de point de ralliement, un point où viennent boire les...
Voilà, c'est ça. Et du coup, on est complètement jumelés, hein. C'est vraiment, on est encore la même organisation, hein. Mais juste, il y a deux associations différentes pour les raisons. D'administration.
Donc, permaculturefrance.org, steveread.fr, si on veut plus d'informations sur permutation.
Oui, permaculture.fr, tout simple.
Permaculture.fr aussi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur permutation?
Non, non, c'est disponible depuis mon site internet. Si ça intéresse aux gens, c'est prix libre autant que je peux. Et si ça vous intéresse. Et dans quelques temps, il y a un livre qui va sortir, qui est en gros la prochaine étape de permutation. En gros, c'est un livre qui explique beaucoup plus en détail qu'est-ce que c'est la permaculture. Et dans ce livre-là, je vais bien au-delà de tout ce qui est jardinage.
Donc ça va être le livre de permaculture de Steve Reed. La permaculture de Steve Reed, après avoir la permaculture de Bill Mollison, de David...
Non, mais je me suis fait inspirer par leur travail, eux. C'est juste, donc ça va être en français, et donc il y a des exemples qu'on trouve en France, et aussi beaucoup de mon parcours est-il dans la campagne, mais j'ai aussi expert en permaculture urbaine. Du coup, il y a une grande partie où je vais parler de la permaculture urbaine, qui ne se réduit pas du tout juste à comment pousser une carotte sur un balcon.
Eh bien, moi, je me réjouis de lire ce livre et de te voir de nouveau autour de ce micro lorsque l'occasion se présentera pour en parler. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là.
Merci à toi.
Dans la chaleur du studio mobile de Radio Permaculture. Bonne fin de journée, Cyril. Au revoir.
Merci, au revoir.
C'est la fin de ce numéro de Acte 2, une balado-diffusion de l'association du passage à l'acte par Flo Msev. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avance de partager ces sons avec les gens qui vous entourent, de les faire circuler largement, car nous refusons l'industrie de la publicité, nous préférons, et de loin, la réputation que vous nous faites. Pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous commander des formations, des conférences ou des animations, nous faire un don et bien sûr guetter nos prochaines publications. Rendez-vous très bientôt sur absala.org, onglet podcast, texte ou formation. Thank you.